Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. En dehors du temps scolaire, jouer devrait être le principal métier des enfants. Comme le disait Nietzsche, chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer. Et les enfants ont le jeu dans le sang. Vous le verrez ce matin, le jeu contribue puissamment à la construction de l'enfant, à devenir plus créatif et à développer certaines formes d'intelligence. Faut-il d'ailleurs privilégier les jeux et jouets dits éducatifs ou laisser les enfants jouer à leur guise, jouer pour le plaisir sans bénéfice immédiat? Vous verrez également pourquoi il est important de jouer régulièrement avec eux. Et à quelques jours de Noël, nos invités nous diront s'il existe de bons et de mauvais jouets et si les jeux vidéo sont bénéfiques ou délétères du point de vue de leur développement. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000, sans oublier de laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Rédactrice en chef de Pomme d'Api, forcément intéressée par notre sujet. Hein ?
Oui.
Et quel est le menu de votre chronique, Ma vie de parent ?
Ah bah non seulement je vais vous dire que j'ai le jeu dans le sang, mais en plus, pardon, à quel point je suis impitoyable.
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Et un enfant qui ne joue pas à faire semblant, c'est-à-dire qui n'a pas son petit théâtre du quotidien, c'est un enfant pour lequel il faut s'inquiéter. Mmh. Un enfant avant la parole, un bébé à l'âge de 15 mois, doit avoir acquis trois items, c'est-à-dire trois séquences comportementales. Il doit oser soutenir le regard, il doit savoir pointer du doigt et il doit faire le pitre en faisant des petites comédies préverbales, un petit théâtre préverbal. Il doit jouer à tomber pour voir si sa mère va... Il va y avoir une rescousse délicieuse. Si je joue à pleurer, elle va se précipiter. Ça va être un grand moment où je vais faire semblant d'être fâché. Et un enfant qui ne pointe pas du doigt, qui ne soutient pas, qui ne joue pas, qui ne fait pas son petit théâtre, il faut s'inquiéter.
Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik sur France Culture en 2015. Bonjour docteur Patrice Huère.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre, psychothérapeute et psychanalyste et vous publiez chez Nathan « Jouer, un moteur pour la vie, comment le jeu développe la créativité et l'intelligence sociale de l'enfant ». Bonjour Marion Joseph.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef d'Astrapi, vous succédez à Gwenaëlle Boulet à ce poste.
Exactement.
Bonjour Augustin, bienvenue.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Je me permets de te tutoyer, j'ai le droit ?
Oui.
Tu as 12 ans, tu es membre de l'association Café Zoïde, un café destiné aux enfants dans le 19e arrondissement de Paris, où le jeu est l'un des piliers de ce café. Tu nous raconteras tout ça tout à l'heure. Alors, Patrice Huère, vous débutez votre livre avec cette citation de Freud : « L'opposé du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité. »
Eh oui. Mais oui, mais il y a beaucoup de malentendus autour du jeu, que ce ne serait pas sérieux, que ça empêcherait les apprentissages sérieux, etc. Et c'est un malentendu complet. On fait fausse route si on va dans cette direction-là. La qualité, la capacité de jouer, qui s'installe très tôt dans la vie, on y reviendra sans doute, cette capacité de jeu va être déterminante pour tous les autres âges, y compris jusque dans le dernier âge de la vie. On connaît tous des personnes très âgées qui gardent cette petite lueur de jeu dans les yeux, qui sont capables de sourire des événements, de s'en amuser. Et cela, c'est évidemment le résultat de cette capacité, de cette compétence qu'ils ont pu acquérir, mais très tôt dans la vie. Et il y a vraiment deux catégories d'humains, si on voulait être schématique. Il y a ceux pour lesquels jouer est possible, et ils l'utilisent dans certaines circonstances, et les autres qui n'ont pas la capacité de jeu et pour lesquels tout est pris au pied de la lettre, au premier degré, et qui ne peuvent pas se distancier de ce qui leur arrive. Ils sont donc très malheureux dans la vie. C'est pour ça qu'il est si important d'aider les enfants dès les premiers temps de leur existence, ainsi que leurs parents, bien sûr, à acquérir cette compétence si précieuse pour la suite.
Et vous regrettez notre époque où l'on oublie de jouer alors que la chambre de nos enfants regorge de jouets.
Et là encore un malentendu, les jouets ne sont pas forcément synonymes du verbe jouer. On peut très bien avoir une chambre remplie de jouets sans avoir du tout de la capacité de jeu et sans avoir le plaisir de jouer. Inversement, et dans des tas de pays au monde qui sont sous-industrialisés, on va voir des enfants qui vont s'amuser follement avec des bouts de bâton, des pierres, des bouts de ficelle, et imaginer des univers sans avoir besoin de jeux manufacturés.
Et en couvrant nos enfants de jouets, nous avons oublié notre plaisir d'enfant quand nous jouions avec trois fois rien.
Alors, certains adultes, heureusement, ne l'ont pas oublié. Hein. C'est ce qui va leur permettre, en tant que parents, de transmettre aussi ce plaisir et de le partager avec leur enfant. Mais il faut bien s'apercevoir quand même que beaucoup l'ont oublié et prennent tout, comme on dit, au sérieux. Mais quelle erreur et quel dommage.
Marion Joseph, jouer a trop souvent perdu son caractère gratuit, désintéressé.
C'est sûr que le plaisir, c'est la base du jeu, et que si on joue, enfin si on cherche à faire jouer les enfants avec une intention précise, le jeu perd complètement sa substance. On voit bien que d'ailleurs parfois les enfants détournent les jouets les plus sophistiqués qu'ils peuvent avoir pour établir leurs propres règles du jeu. Et même nous à Astrapi, quand on crée des jeux, on prévoit une règle au départ, et puis parfois ils s'en amusent, ils jouent avec les règles, et c'est là qu'ils expriment aussi toute leur créativité.
Docteur Patrice, il faut laisser aux enfants leur capacité de rêverie. Capacité de rêverie, c'est une expression du psychanalyste Donald Winnicott. Vous avez l'impression parfois que certains parents ne supportent pas le temps libre de leurs enfants, alors que nous autres adultes, nous rêvons de repos et de distraction.
Oui, et on voit cette tendance s'accentuer très nettement depuis quelques décennies. À savoir, je vois de plus en plus de parents qui s'inquiètent de leur enfant qui est en moyenne section de maternelle et qui ne saurait pas encore lire et écrire ou qui s'y intéresserait pas suffisamment. Contrairement à certains pays du nord de l'Europe en particulier, où on va attendre l'âge de 7 ans pour commencer les apprentissages « sérieux » entre guillemets, en développant précédemment tout le plaisir de jouer qui va leur permettre ensuite d'aborder les apprentissages en s'en amusant, et le plaisir d'apprendre va en découler, alors que pour les autres c'est le devoir d'apprendre, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et là je crois qu'il y a aussi une fausse route.
Et il faut le marteler, hein, un enfant qui joue gratuitement pour le plaisir ne perd pas son temps.
Ah, il gagne du temps. Il gagne du temps non seulement à court terme par la prime de plaisir qu'il éprouve, mais aussi pour la suite, puisque on sait très bien que dans nos activités respectives, dans nos vies respectives, si on aborde tout de manière binaire, c'est bien, pas bien, etc., on va s'ennuyer. Alors que cette prime de plaisir qu'on va retrouver dans des activités que l'on a pu choisir, c'est tout à fait différent. Et donc ce plaisir de jouer, on va le retrouver. On a autour de nous des gens qui ont dont on se dit, y compris si on les invite à dîner, attention, il ne va pas falloir plaisanter sans prévenir, parce que si on ne prévient pas, ils peuvent le prendre au pied de la lettre, au premier degré. Et alors là, quel malheur quand on fonctionne comme ça.
Marion Joseph.
Non, par rapport aux apprentissages, c'est vrai que dans les programmes de l'éducation nationale, par exemple, en maternelle, le jeu est très présent, et puis ensuite en élémentaire, on le retrouve quasiment plus. Comme proposition, parce qu'en fait, je connais beaucoup de professeurs des écoles qui utilisent le jeu, même peut-être de plus en plus d'ailleurs, dans les apprentissages. Alors pas que le jeu, mais qui utilisent des vrais jeux, c'est-à-dire des jeux de plateau qui sont proposés par certains éditeurs ou qui trouvent sur des blogs, etc. Il n'y a pas forcément beaucoup de formation à l'école sur le sujet, on peut le regretter, mais il y a beaucoup de professeurs qui l'utilisent, que ce soit pour échanger autour d'apprentissage de français, de mathématiques, ou autour des émotions au quotidien, etc. Donc c'est quand même...
Heureusement,
présent,
il y en a quelques-uns qui prennent ce genre d'initiative, mais c'est pas vraiment dans la consigne officielle.
Non,
si
c'est pas
voulez,
la consigne officielle.
Ils sont un peu transgressifs tout de même.
Alors ils ont le droit d'utiliser effectivement les objectifs, les moyens qu'ils veulent pour arriver à leurs objectifs, mais c'est vrai et c'est pas anecdotique, je pense, l'utilisation du jeu dans l'éducation nationale. Mais ça n'est pas encouragé. Il y a pas de formation, etc.
Pas vraiment. Et il faut rester assis, écouter, restituer, etc. Beaucoup plus que plaisanter, s'amuser. Alors, mais ces médiations ludiques, on l'utilise aussi, nous, dans les soins avec les enfants, bien évidemment. On ne va pas avec les enfants, en particulier s'ils sont tout petits, s'adresser à eux, les yeux dans les yeux, raconte-moi tes malheurs, etc. On va passer par l'intermédiaire de jeux, de jouets, de pâte à modeler, de dessins, etc., qui vont être des manières d'exprimer son monde interne et de communiquer avec son interlocuteur à un niveau qu'on n'obtiendrait pas verbalement si facilement.
Gonelle Boulet.
Oui, c'est vrai que cette question du jeu, elle est marrante, parce que je trouve que quand on est adulte, alors on voit bien comment on arrive à peu près, pour ceux qui sont encore un peu joueurs, à se mettre dans les jeux de société, etc., avec des supports, mais on voit bien, même quand on est joueur, à quel point on a une difficulté à rentrer dans le jeu libre, par exemple, le jeu de la petite enfance. Moi, je joue en tant que parent, c'est vrai que le jeu libre, quand ils sortaient leurs poupées, moi j'ai un fils qui joue des heures et des heures au Lego, à se faire des mondes entiers, mais à quel point c'est difficile, on a perdu cette capacité d'imagination à partir de trois petits personnages, à se faire un monde, etc. Et moi, je trouve ça fascinant de voir à quel point l'enfance et le petit enfant est capable de, je sais pas, 4 heures, 5 heures, 6 heures, de s'imaginer des mondes tout seul. Je trouve ça fascinant.
Et j'ai noté, docteur Patrice Huère, cette phrase dans votre livre, « Jouer, ce n'est pas tendre vers un but précis, mais s'ouvrir à l'inattendu. »
Oui, et ça, c'est aussi quelque chose qui fait tellement défaut aujourd'hui, c'est-à-dire attendre de bonnes choses, des surprises. C'est-à-dire que la surprise est aujourd'hui synonyme, bien souvent, de malheur, de difficultés, etc. Et cette capacité d'être surpris par des situations qu'on peut imaginer ou qu'on peut jouer, c'est vraiment une qualité enfantine. Pour les enfants en bonne santé, attention, on parlera peut-être de ceux qui, malheureusement, n'ont pas cette compétence-là, eh bien, qui va être une qualité tout à fait précieuse.
Patrice Huère, l'enfant commence à jouer à partir de quel âge ? Dès l'âge de 2-3 mois ?
Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le mot jouer, mais évidemment, on voit bien quand on assiste au mouvement spontané d'un nouveau-né, d'un tout petit, que dès 2-3 mois, il va commencer à essayer d'attraper un pied qui bouge, qu'il ne considère pas encore comme une partie de son corps, une main qui passe, etc. Mais c'est peut-être excessif de qualifier ça de jeu. En tout cas, c'est une recherche d'appréhension d'objets, de visages, etc. qui passe à portée de main ou de pied. Et c'est vraiment vers le milieu de la première année, entre 6 et 9 mois, que se situe la période fondamentale d'acquisition de la capacité de jeu, au moment où le petit enfant va pouvoir faire appel à un doudou, à un objet intermédiaire, comme Winnicott l'appelait, un objet transitionnel, qui va lui permettre, en s'appuyant sur cet objet, d'attendre un peu et de différer un peu la satisfaction de ce dont il a besoin ou envie.
Et en moyenne et grande section de maternelle, quel type de jeu plaise aux enfants ?
Alors là, c'est
à grand trait, évidemment.
Il y a vraiment les jeux moteurs. Déjà, on va voir le plaisir de découvrir, au fond, les sensations corporelles, etc. Donc ça, dès la crèche, on le voit. Hein, les enfants qui vont essayer d'appréhender, alors parfois de manière un peu problématique, d'après certains parents, hein, avec quand on griffe, quand on mord, avec ses 2-3 premières dents, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait, auxquels on prête tout de suite des intentions négatives, alors qu'il s'agit vraiment d'une exploration du monde, des sensations, etc. Et puis après, quand on arrive à l'école maternelle, tout s'ouvre. Le plaisir de partager des jeux avec d'autres, ça commence, même si parfois les jalousies, les rivalités, selon les situations personnelles de chacun, peuvent s'exercer. Mais tout de même. Et là, tous les objets vont être des prétextes. Hein. Je raconte dans ce livre une petite scène de parents qui étaient très inquiets parce que leur enfant avait été surpris en train de jouer tout le temps à la poupée, et les parents s'inquiétaient de son devenir. Ce petit garçon à qui je demande devant ses parents qu'à quoi tu joues, écarte les bras de la poupée et se met à faire mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit c'est un avion. Donc vous voyez le malentendu, c'est-à-dire que la capacité de prêter à un objet une autre valeur que celle qu'il a objectivement, ça c'est cette capacité de décoller, c'est le cas de le dire, que des petits enfants vont avoir.
Et d'ailleurs, sur les petits, ce qui est drôle, c'est que le jeu est le fondement de l'amitié. C'est-à-dire que si vous demandez à un enfant pourquoi c'est un bon copain, etc., mais c'est parce qu'il partage le même univers de jeu. C'est vraiment le fondement de l'amitié en maternelle, en primaire même. Alors après, avec les filles vont peut-être aller un peu plus vers les secrets, la capacité de se partager des secrets, des choses comme ça. Mais globalement, un bon copain, un vrai ami, c'est celui à qui on peut entrer dans un univers de jeu.
Oui, oui.
C'est une façon d'entrer en contact aussi. On voit bien comment, quand des enfants se retrouvent en vacances avec d'autres enfants, en deux secondes, ils vont avoir fait connaissance via un jeu. Alors que nous, on ne saura pas comment...
tu fais quoi dans la vie? Comment parler aux
parents? Oui, c'est très sérieux, très souvent, entre adultes. Quand
on devrait faire un bon jeu.
Quand on entre en interaction. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est très sérieux et c'est vrai que entrer en relation avec l'autre à travers le jeu, c'est quand même un peu plus sympathique. En primaire, quel type de jeu les enfants aiment bien? À 6-8 ans, beaucoup d'enfants aiment les jeux de compétition.
Hein. À partir du cycle scolaire primaire, on rentre dans une autre phase puisque c'est l'âge sérieux, entre guillemets, hein, la période qu'on appelle nous de période de latence où on a mis de côté provisoirement toutes les grands bouleversements, les grands chahuts intérieurs des 6 premières années, en attendant ceux qui vont revenir après la puberté. Et donc cette période bénie pour les parents et les enseignants, où l'enfant est sérieux, obéissant, a priori cherche à faire plaisir aux parents et aux adultes, évidemment est caractérisée par des jeux qui ont une allure un peu plus contrainte, un peu plus sérieuse, donc des jeux avec des règles, là vraiment on est dans un autre registre, on a perdu cette spontanéité de la première enfance. Les dessins, c'est des maisons avec une petite cheminée, un petit jardinet devant et un soleil ou des nuages. On n'est plus dans la créativité du tout petit, mais ça a été mis de côté nécessairement pour pouvoir grandir. Et ça va être retrouvé à l'adolescence, mais d'une autre manière.
Augustin, je rappelle que tu as 12 ans, que tu es en 5e. Quelle place le jeu a dans ta vie ? Et raconte-nous un petit peu. Augustin, quelle est la place du jeu dans ta vie ?
Écoutez, le jeu dans ma vie, j'ai un gros coffre à jouets
ouais.
dans la chambre. Qu'est-ce que... Et puis,
Moi, je veux savoir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre à jouer ? Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre à jouer ?
Plein de jeux. J'ai des Playmobil, j'ai des Lego, j'ai plein d'autres trucs.
Ouais, ouais. Et est-ce que tu aimes jouer aux jeux libres, c'est-à-dire des jeux où tu as pas forcément de règles, ou tu joues pour le pur plaisir de jouer?
Oh oui, j'aime bien.
Ouais. Mais raconte-toi un petit peu.
Des fois, par exemple, avec des Playmobil, on peut inventer des histoires, ou avec des Lego.
Mmh. Ça, c'est important, cette dimension d'invention, d'imagination. C'est le plus important pour toi?
Pour moi, oui, je pense que c'est très important d'inventer des histoires.
Mmh. Bonjour Victorien Thomas.
Bonjour Ali.
Stagiaire dans l'émission, titulaire d'un master en anglais, titulaire du BAFA depuis l'âge de 16 ans. Tu es animateur en centre de loisirs, tu es plutôt spécialisé dans la tranche d'âge 9-15 ans. C'est difficile de les faire jouer, les 9-15 ans?
C'est pas simple, parce que c'est un âge un peu de transition où il y en a certains, ils ont pas forcément envie d'être là, c'est leurs parents qui les ont mis dans les centres de loisirs pour avoir de vraies vacances, hein, finalement. Et moi, du coup, j'essaye de me mettre à leur place quand j'imagine des activités ou des jeux. Je me dis, est-ce que mon moi de 15 ans aurait aimé y jouer? Et en fait, je me retrouve au final à prendre autant de plaisir qu'eux à jouer au jeu avec eux. Et sinon, ce que j'essaye de faire quand il y en a vraiment qui sont très timides, j'essaye de voir, de trouver les moteurs parmi les groupes de jeunes, les éléments moteurs sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer, en fait, pour lancer une dynamique de jeu et qu'ils fassent en sorte que leurs copains les suivent et rentrent dans le jeu. Mais de toute façon, au bout de 10 minutes que les enfants sont dans l'activité, ils sont tous à fond.
Alors Victorien, tu élabores des jeux qui entrent en résonance avec une tendance jeune du moment. Par exemple, en ce moment, ce sont les challenges de YouTubers, style McFly et Carlito. Tu peux nous donner un exemple?
Oui, de toute façon, j'essaye à chaque fois d'intéresser les jeunes avec ce qu'ils regardent, ce qu'ils consomment sur Internet notamment. Et des challenges de YouTubeurs comme McFly et Carlito, un bon exemple pour moi, c'est le concept « on appelle des gens au hasard sur nos téléphones ». Donc les deux vidéastes, en fait, répondent souvent, ils sont accompagnés d'une célébrité, et ils répondent à des questions de culture générale vraiment classiques. Et s'ils échouent à cette question, ils doivent appeler une personne au hasard sur leur téléphone et placer dans la conversation un mot en rapport avec la question sur laquelle ils ont échoué. Et donc moi j'adapte ça en fait avec les enfants, donc je leur propose plusieurs catégories. Et ici le but n'est pas tant de gagner, parce qu'il n'y a pas de système de points, savoir quelle équipe a fait le meilleur score. Le but surtout de ne pas perdre, pour ne pas se retrouver hors de leur zone de confort, et donc de se retrouver à devoir faire de l'improvisation, d'appeler des gens au hasard et d'essayer de placer des mots comme, je sais pas, si on demande où se situe la Laponie, ensuite s'ils n'ont pas la réponse, ils vont devoir placer le mot Laponie dans leur improvisation.
Et est-ce que tu laisses les plus jeunes jouer librement, sans visée pédagogique, ou est-ce qu'il y a un peu de culpabilité de se dire je suis animateur et il faut quand même leur apprendre des choses à travers le jeu?
Moi, dans mes centres de loisirs, on a vraiment, c'est découpé en deux demi-journées, et à chaque demi-journée, on essaye de faire une ou plusieurs petites activités, soit c'est par groupe et du coup ils choisissent leur activité, soit on fait une grande activité. Mais autrement, il y a toujours des temps libres ou des temps calmes. Donc souvent après le temps de midi, on met en place un temps calme où là ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec notre appui s'ils ont besoin. Par exemple, s'ils veulent lancer un jeu de société et qu'ils ont besoin qu'on leur explique les règles. Nous, on est là pour ça, mais ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et pendant les temps libres, c'est pareil, mais on leur autorise également de faire du sport, du foot, du basket, etc. Et tous les jeux. Et souvent, s'il y a une activité qu'ils ont appréciée pendant le séjour, ils vont la refaire par eux-mêmes durant les temps libres.
C'est le but du jeu.
Ouais.
Augustin, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est le Café Zoïde à Paris? Explique-moi un petit peu. Tu es membre de cette association. Qu'est-ce qu'on y fait?
Alors le Café Zoïde, c'est un café des enfants où il y a en bas il y a un bar où il y a
sans alcool.
oui, sans alcool. Et en haut donc il y a deux espaces, il y a trois espaces. Il y a la scène où on peut faire de la musique et là où se déroule la Zoïde Band, c'est le groupe de musique du Café Zoïde. Il y a l'espace petite enfance.
Ouais.
Il y a tous les moins de 2 ans environ. Et puis il y a le milieu où on joue au baby-foot, aux jeux de société et au reste.
Qu'est-ce que ça t'apporte de jouer dans ce lieu-là? Explique-nous un petit peu ce que ça t'apporte.
En fait, on peut se faire plein de copains là-bas parce que y a plein de gens. Et puis surtout, là-bas, on peut jouer ou ne pas jouer. Et on est écouté. Et on peut aussi aller au jardin partagé.
Votre regard, Marion Joseph, sur cet enfant qui participe à cette association.
On revient toujours à ça, à l'envie d'échanger avec les autres, de se faire des copains à travers le jeu, et puis aussi à l'idée de liberté, c'est-à-dire qu'au Café Zoïde, il y a des jeux, on les prend, on les pioche, on compose et on crée son univers de jeu.
Docteur Patrice Huère.
Oui, moi je trouve que c'est le mot libre qu'il faudrait sans doute préciser. Jeux libres, par exemple, à Issy-les-Moulineaux, toutes les temps périscolaires, ils ont initié, formé tous les animateurs aux jeux libres. Mais le jeu libre, ça veut pas dire on fait n'importe quoi.
Ça veut dire quoi?
Il y a un cadre. Il y a un cadre général au sein duquel on peut être libre. Parce que la liberté, c'est grâce aux lois pour nous, les citoyens, qu'elle les garantit. Et dans les jeux, c'est la même chose. Par exemple, si un petit enfant dit « on joue à la bagarre », que le parent est d'accord pour jouer à la bagarre, ce sera pendant un temps qui aura été prédéfini sur une zone géographique qui aura été prédéfinie. Mais si ce temps est écoulé et qu'il continue de donner des coups de poing ou des coups de pied, c'est plus du jeu. Et donc, c'est ça qui va définir le jeu. C'est parce qu'on s'est mis d'accord, donc c'est pas moi seul qui décide, c'est on décide ensemble que pendant un temps, on est libre de faire ci ou de faire ça. Mais dans ce temps-là, dans ce lieu-là, pas partout et tout le temps. Et c'est cette construction progressive des espaces dans lesquels on peut jouer qui va faire comme si on par un petit clin d'œil, on décide de plaisanter avec son interlocuteur, on lui indique par un signal discret que on va s'amuser sur ce que l'on va échanger. Mais après, on peut reprendre un air sérieux et dire non, là maintenant, on ne rit plus, c'est sérieux. Vous voyez ? Donc c'est cette différenciation progressive entre c'est du jeu ou c'est pas du jeu, comme disent les enfants, qui va être très importante à installer.
Allez, dans un instant, vous verrez comment le jeu développe l'intelligence et la créativité des enfants. En attendant, on écoute MGMT Kids. We'll be right back. GMT interprété Kids.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi. Sur France Inter.
10h33, comment le jeu développe la créativité et l'intelligence des enfants, c'est notre thème ce matin. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000.
10h20, l'heure de la récréation pour ses élèves de primaire.
On joue des fois au volley,
on joue des fois au basket,
à la tournante, au loup.
Et des fois, on discute.
Billes, Pog ou encore cartes Pokémon, ces objets ont marqué l'histoire de la récréation. Certains ont disparu, d'autres sont indémodables. Julie Delalande est anthropologue. Elle a passé 5 années à observer les cours de récréation. Pour elle, ce temps est complémentaire de l'enseignement en classe.
Cette autonomie qu'on accorde aux enfants pendant ce moment-là, et ils en font quelque chose qui est leur chose. C'est un temps d'apprentissage, mais voilà, d'apprentissage qui se fait selon des règles différentes de ce que proposent les adultes.
Loin des parents, la cour de récréation demeure pour les enfants le premier terrain de jeu de la vie en société.
Extrait du JT de France 2 en février 2017. Patrice Huert, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste sur la cour de récréation qui permet de la vie en société, le jeu dans la cour de récréation, absolument fondamental, à côté des temps scolaires, évidemment.
J'ai la chance d'avoir sous ma fenêtre une cour de récréation d'une école primaire, et c'est vrai que c'est un spectacle remarquable que tous les étudiants en psychologie et autres devraient assister de manière prolongée pour pouvoir s'imprégner de ce qui fait la vie dans ces âges-là. On voit bien qu'effectivement il y a aussi bien des jeux très moteurs, très physiques, on se bouscule, on saute par-dessus les vêtements que l'autre a posés par terre, pendant que d'autres discutent dans un coin, d'autres vont jouer avec un vieux ballon qu'ils ont récupéré dans une gouttière. Enfin, on a une diversité de situations absolument considérable dans un espace libre, avec tout de même, je précise, quelques adultes qui veillent, même si c'est de loin et discrètement, pour garantir quand même que ce jeu reste du jeu et que quelques-uns qui, eux, n'auraient pas cette compétences, utilisent cet espace de liberté pour maltraiter l'autre, le sadiser, etc. Parce que ça existe aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et donc le rôle des adultes reste important pour garantir, comme sur un terrain de foot ou de rugby, que c'est bien du jeu pendant ce temps-là, à cet endroit-là.
Alors beaucoup de parents nous demandent si jouer sert à apprendre à vivre en société, en groupe, bref, si ça permet de développer l'intelligence sociale de l'enfant.
C'est ce que l'on voit dans toutes les espèces de mammifères d'ailleurs. Il suffit d'aller au zoo ou ailleurs et regarder comment les petits apprennent la vie avec les plus grands. C'est ainsi que ça se passe, c'est-à-dire c'est à travers des jeux. Le petit babouin du zoo de Vincennes va essayer d'asticoter le vieux mâle jusqu'au moment où le vieux mâle lui envoie une baffe pour lui dire « attends ton tour ». Mais par le jeu social, l'animal va apprendre les relations avec les autres, va apprendre les codes sociaux en vigueur et va pouvoir les intégrer progressivement. Le petit humain fait la même chose à sa manière, et il a besoin de cet apprentissage progressif des usages partage, de la vie en groupe, de la vie en société, le respect de l'autre, etc. Mais le rôle des adultes est tout à fait déterminant pour que ça se construise correctement. Et c'est un dosage qui n'est pas si simple, puisqu'il y a la nécessaire liberté à laisser pour expérimenter, parce que sinon, ça va être tout contraint, corseté, et il n'y aura pas eu cette ouverture à des possibles. Et en même temps, de dire, attention, il y a des limites. Donc ça, c'est ce jeu-là. On voit que beaucoup de parents aujourd'hui sont plus dans, soit, allez, c'est comme ça, faut faire comme je te dis, et puis c'est tout, et puis pas d'espace d'expérimentation personnelle, ou au contraire, allez-y, faites comme vous voulez, une sorte de lâcher total, avec les risques que cela fait courir à l'enfant.
Victorien Thomas, je rappelle que tu es stagiaire dans l'émission, animateur de centre aéré et de centre de vacances. Sur ton rôle dans l'apprentissage des compétences sociales des enfants, tu encadres surtout des 9-15 ans.
Oui, alors sur les 9-15 ans, en plus moi j'ai la chance dans mes centres de loisirs que ce soit des petits centres ruraux, donc on n'a pas non plus des gros groupes.
Dans l'Est de la France.
Dans l'Est de la France, exactement. On n'a pas des énormes groupes, on a maximum 28 jeunes avec nous, donc on est des équipes d'animation réduites, et notre but c'est que quand ils arrivent, ils ne se connaissent pas tous, certains petits groupes sont déjà formés. Mais nous, notre but, c'est à chaque fois dans les activités de faire du mélange, en fait, ce qui revient en fait à une sorte de mélange social, d'inclusion, donc des autres dans notre propre groupe. Et au début, c'est un peu forcé, forcément, parce que chacun veut être dans l'équipe de son copain et tout, donc on sépare au début. Mais arrive toujours ce moment où les jeunes par eux-mêmes vont faire leurs propres équipes et intégrer les plus petits ou intégrer ceux avec qui ils ne s'entendaient pas au début. Et c'est plus facile quand on a un groupe de jeunes réduit. Mais voilà, le but c'est qu'à la fin, tout le monde s'entende bien et tout le monde puisse interagir et communiquer ensemble.
Marion Joseph, rédactrice en chef d'Astrapi.
Oui, le jeu, ça va permettre déjà d'apprendre aux enfants, d'apprendre. Ça va leur permettre d'avoir des expériences de coopération, de confrontation dans un cadre sécurisé, avec des règles, etc., avec lesquelles ils vont pouvoir s'amuser. Mais moi, je pensais aussi au côté confiance en soi. Enfin, ce qu'on observe quand même, c'est que le jeu va permettre aux enfants d'améliorer leur confiance en eux, parce que dans le cadre du jeu, ils se sentent pas jugés. Ils vont pouvoir tester des stratégies, tester des choses, développer des compétences, apprendre sans se sentir jugés et surmonter des obstacles, relever des défis. Que ce soit dans la confrontation, la coopération avec les autres, sans ce jugement. Et c'est essentiel, je pense, pour la construction, il me semble, de la confiance en soi.
Docteur Patrice Huère, est-ce normal qu'un enfant n'aime pas du tout jouer ?
Alors ça dépend ce qu'on met derrière ça. Un enfant qui ne saurait pas jouer, y compris seul, hein, comme c'était raconté dans Le Plaisir par Augustin, hein, dans ses jeux avec ses Lego et ses Playmobil, ou dans ses univers qu'il se crée, même si c'est un jeu solitaire, c'est un jeu. Et c'est bien décrit comme puisant dans l'imaginaire. Un enfant qui n'aurait pas cette capacité de jeu m'inquiétera. Il m'inquiétera à court terme, et m'inquiétera pour son avenir, puisque le plaisir qu'il trouvera dans les relations avec les autres, dans la relation aux apprentissages, etc., va être très pauvre. Et on voit ces enfants-là, au moment de l'adolescence, à l'entrée au collège, qui sont extraordinairement malheureux, puisque faute de capacité de jeu, ils sont dans les enjeux directs, c'est-à-dire que c'est lui ou moi, il n'y a pas de jeu possible. Donc on m'a regardé, me disaient certains adolescents que je voyais en expertise pour des passages à l'acte agressifs. Il m'a regardé. Et alors je lui ai donné un coup de poing. Pourquoi ? Il m'a regardé. Pas de capacité de jeu. Pas possibilité d'en sourire, pas possibilité de se distancier de quelque chose dans lequel on se sent complètement prisonnier. Et c'est vraiment terrible pour ces gens-là, plus tard, de vivre ainsi.
Bonjour Jacques, bienvenue.
Bonjour.
Vous teniez à témoigner ce matin, vous appelez de Sevran.
Oui, c'est ça. En fait, j'appelle de Seine-et-Marne, mais je travaille sur Sevran dans un centre de PMI. Mmh. Donc, confronté quotidiennement à la tranche des 0-6 ans. Mmh. Et voilà, je voulais... C'était pas vraiment une question, mais expliquer que moi j'étais confronté à beaucoup de situations sociales très précaires. Et c'est vrai que quand on suit le développement des enfants et qu'on explique aux parents que c'est important de jouer avec leurs enfants, souvent on est confronté à une forme d'incompréhension parce que c'est un milieu de leurs préoccupations quotidiennes. Mmh. Alors nous, on essaie de leur expliquer que c'est fondamental pour le développement de leur enfant, et donc ma question, c'était un peu comment faire retrouver aux parents L'envie, le plaisir de jouer avec leurs enfants.
Très bonne question, Jacques. Très bonne question.
Quand il y a des enfants qui n'ont pas de temps de jeu vraiment avec les parents, et surtout avec la période
de Noël,
de pandémie, là où on se rend compte que il y a beaucoup d'enfants qui sont devant les écrans et à qui on propose pas de jeu à proprement parler.
Très bonne question à quelques jours des vacances de Noël, hein, Patrice Huer. Comment inciter les parents à davantage jouer avec leurs enfants pendant cette période? On peut en profiter, hein, peut-être pour forcer sa nature.
Oui, c'est difficile de forcer sa nature, mais en tout cas, souvent, ce sont des parents qui sont bien intentionnés à l'égard de leur enfant, qui ont l'idée que pour que leur enfant grandisse, réussisse à l'école, etc., il faut pas qu'ils perdent de temps à jouer, hein, et qui eux-mêmes ont oublié les plaisirs qu'ils trouvaient quand ils étaient enfants. Et donc, dans mon métier, on va passer beaucoup de temps, surtout si l'enfant est tout petit, à réanimer chez le parent le plaisir qu'il avait pu éprouver lorsqu'il était petit à jouer, pour qu'il puisse transmettre cela à son enfant. Mais c'est vraiment un malentendu. Beaucoup de parents veulent bien faire en disant « Bon, allez, va jouer dans ta chambre maintenant, puis après tu viens travailler. Va jouer dans ta chambre. » Alors, il se retrouve avec des tas de jouets, mais jouer seul, comme ça, alors que cet enfant attend peut-être que ses parents viennent initier le jeu, participer un peu, pas forcément des heures, mais un petit peu avec lui.
Et vous écrivez « Refuser de jouer avec son enfant, c'est se priver d'un formidable moyen de se connecter à lui, de créer des moments intenses dont on se souviendra longtemps. »
Ben oui, c'est très important. Ça fait des souvenirs partagés, d'émotions qu'on a pu partager et qui vont être vraiment très précieux.
Marion Joseph.
Oui, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il y a peut-être un autre malentendu qui freine les parents dans l'idée de jouer avec leurs enfants, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils doivent forcément se mettre à quatre pattes et jouer au Lego. et du coup, ça peut les stresser. Alors qu'en fait, c'est retrouver son plaisir qu'on a aussi en tant qu'adulte de jouer. Et ça peut être des jeux de mots. Pour moi, une bagarre de Gilly, c'est déjà jouer. Et en fait, il y a plein de façons de jouer. Et peut-être juste se dire qu'est-ce qui m'amuse moi, et qu'on ait un plaisir partagé. C'est ça aussi qui va renforcer le lien, plutôt que de se dire... Ouais. Même qu'on doit se mettre à quatre pattes, effectivement, à jouer, forcément.
Alors... du coup, les plaisirs que l'on éprouve soi-même dans des situations qui ne sont pas forcément le jeu sérieux tel qu'on se le représente.
Merci beaucoup, Jacques, de nous avoir appelé. Augustin, est-ce que tu joues avec tes parents? Est-ce que tes parents se prêtent au jeu avec toi?
Oui, souvent.
À quoi vous jouez?
Des fois on peut jouer au Playmobil, des fois oui, on peut faire des bagarres de Gilly.
C'est pas mal ça. Patrice Huer, pourquoi les enfants prennent autant de plaisir à faire semblant? C'est un moyen exceptionnel de déployer son imagination et par ricochet sa créativité.
Oui, puis c'est de proposer une ouverture à des possibles tout à fait larges. On sort d'une vie dans laquelle on est coincé par des rôles, par des obligations, et là, tout à coup, tout est possible si on fait semblant. Hein, on va faire semblant de... Les enfants d'emblée induisent ça. On dirait que c'est pas pour de vrai, etc. Ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, pour inviter leurs parents à bien comprendre que les propositions qu'ils font, c'est pour s'amuser, c'est pas pour de vrai.
Et je cite le psychanalyste Donald Winnicott à nouveau, cette capacité de l'enfant à créer un monde, c'est bel et bien la définition du jeu. On va jouer avec Gonel Boulet, il est 10h45, il est temps de retrouver Ma vie de parent de Gonel Boulet donc.
France Inter.
C'est que sur les reproches vous, hein. On est là pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout pourquoi pas.
Alors, Gwenaëlle Boulet, il paraît qu'un véritable dilemme vous a saisi en préparant cette chronique.
Et oui, Ali, en préparant cette chronique, je me suis heurté à un gros, gros problème. C'est que concernant les jeux de société, pour ne prendre que cela, il n'y a pas une, mais deux catégories de parents à déculpabiliser. La première, la plus vaste sans doute, comprend tous les parents qui tout simplement n'aiment pas jouer. Vous voyez ceux qui sont soudain prêts à se dévouer pour aller passer l'aspirateur ou étendre le linge plutôt que de faire une bonne partie de bonne paille ou de mille bornes. Celles et ceux qui préféreraient se pendre plutôt que de se lancer dans une partie de verger, de lynx ou pire de Monopoly. Je sais combien tous ces parents culpabilisent en silence car, comme on l'a dit tout au long de cette émission, on leur répète tellement que jouer avec ses enfants permet de retrouver des moments de complicité et d'humour dans nos quotidiens souvent hyper stressés, de se concentrer ensemble sans être éparpillés chacun dans nos univers et de mettre ensemble à l'épreuve nos émotions. Mais bon, comme dit le dicton, hein, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif.
Et du coup, pour répondre à notre auditeur Jacques, vous avez quand même un petit conseil pour ces parents qui n'aiment pas jouer.
Bon alors, vous allez être un petit peu déçus, mais à part vous dire que tout ceci n'est pas très grave et que si vraiment vous n'aimez pas ça, il y a plein d'autres choses à partager avec vos enfants, comme la cuisine, le bricolage, le jardinage, le sport, la musique, les blagues, mon petit conseil du jour s'arrête là pour vous. À moins qu'au fond, vous ne détestiez pas tant que ça jouer, mais que ce soit qu'une question de temps. Auquel cas, je dirais bien, troquer une fois par semaine un repas préparé maison ou une histoire du soir par une soirée pizza surgelée, petit jeu de société. Et vous verrez, ça fait du bien.
Alors vous avez une autre catégorie de parents à déculpabiliser.
Et oui, l'autre catégorie à laquelle j'appartiens pleinement est celle des parents qui ne sont pas joueurs, mais trop joueurs.
Ah.
Alors vous allez me dire, comment peut-on être un parent trop joueur, hein ? Eh bien, quand par exemple vous jouez avec votre beau-fils de 4 ans à la pêche aux poissons et que vous avez l'impression de jouer votre vie et que vous êtes incapable de le laisser gagner, déjà c'est un petit indice que vous appartenez à cette catégorie. Non, parce que moi, que mes enfants aient 3, 8, 13 ou 20 ans, quand je joue, je joue. Je suis à fond et l'espace d'une partie, je peux très facilement me transformer en urbanisme médiéval, en chasseuse de zombies, voire en affreuse capitaliste prête à mettre à genoux les mauvais payeurs qui ont la malchance de tomber sur ma rue de la paix avec hôtel. Oh, rien que d'y penser, j'ai envie de me faire une partie, tiens.
Mais rassurez-moi, Gonelle, vous laissez de temps en temps vos enfants gagner.
Laisser ou non gagner ses enfants. Je crois qu'on touche là un vrai grand débat éducatif. Alors d'un côté, c'est vrai, je crois que ça peut valoir le coup de temps en temps. Allez, quand ils sont tout petits, que perdre est si insupportable pour certains d'entre eux, qu'enchaîner les défaites risque de les dégoûter à vie du jeu, ce qui serait un très mauvais calcul quand on aime jouer. Donc j'avoue, j'ai dû craquer quelques petites fois, mais par pur opportunisme. Parce que sinon, j'assume le fait d'être assez impitoyable au jeu. Et vous savez quoi ? J'ai adoré l'immense sourire de fierté de mes enfants, les premières fois où ils ont gagné pour de vrai. Ces fois où je me suis avouée vaincue, non pas pour leur faire plaisir, mais parce qu'ils avaient été meilleurs. Plus chanceux, plus malins, plus stratèges, plus créatifs, plus observateurs ou plus rapides. Et ces fois aussi, on a tous gagné ensemble contre un corbeau, un dragon, ou même réussi à poser nos cartes en communiquant en semi-télépathie.
Au fond, vous êtes une publicité vivante pour le jeu en famille.
Ouais, je pense même que les adultes et les couples devraient jouer plus souvent. Par exemple, quand vous ruminez une petite vengeance parce que votre conjoint ou votre conjointe vous a laissé une grosse machine de slip-chaussettes à étendre, vous vous vengez à coups de cartes, de pneus crevés, de lancers de dés ou de parties de skate-jo. Ça peut s'avérer plus pacifique. Mieux encore, si vous collaborez ensemble pour éviter une guerre ou réduire à néant une pandémie mondiale... Bon, je vois que certains sont dubitatifs. En tout cas, si vous voulez vous lancer, mes enfants vous ont concocté une petite liste de jeux à découvrir en famille, donc amusez-vous bien.
C'est quoi le Sky Joe ?
Oh, le Sky Joe, c'est notre jeu du moment. Un tout petit jeu de cartes, très simple en règle du jeu, mais alors... diabolique.
On mettra sur le site votre sélection de jeux pour la famille et vous pouvez podcaster et partager Ma vie de parent sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, à quelques jours de Noël, nos invités vous diront s'il existe des bons et des mauvais jouets. En attendant, on écoute Okelou et Pomme qui interprètent Galore.
Ce que je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Compter sans bruit les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Oh, elles se jouent de nous. Thank you. pas pour moi. Ne t'en fais pas pour moi.
Ok Lou et Pomme interprétées Galore.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h52, comment le jeu développe la créativité et l'intelligence sociale des enfants, c'est notre thème ce matin. Maïté nous écrit, jeu éducatif, c'est un oxymore, tout jeu est éducatif, tout jeu est expérience, et vive les ludothèques. On n'a pas assez parlé des ludothèques, docteur Patrice Huert. Quel est leur rôle?
Les ludothèques sont des lieux très très importants qui se développent heureusement avec des professionnels qui vraiment ont à cœur d'offrir des situations dans lesquelles il va y avoir du plaisir de jeu qui va se développer chez l'enfant, mais aussi éventuellement avec ses parents qui l'accompagnent. Et ça, je trouve que c'est très important. Ils servent finalement de médiation d'ouverture au plaisir de jouer avec son enfant pour un certain nombre de parents qui, autrement, seuls chez eux, ne réussiraient pas à le faire.
Beaucoup d'auditeurs nous demandent ce que vous pensez des jeux éducatifs. Tiens, je cite Christer Svensson. En 2009, il était directeur du Centre international de recherche sur le jouet à Stockholm. Il disait « Le jeu éducatif, c'est une atteinte profonde à l'enfance, atteinte parce que c'est invraisemblable de rendre utile un jeu. »
Alors, ça dépend. Vous savez, la langue française n'utilise que le mot « jouer » et « jeu ». En anglais, il y a « play » et « game », hein, qui différencie bien les jeux avec règles et les jeux sans règles. Les jeux avec règles, tels que ceux qui ont été évoqués, hein, où il y a des règles du jeu qu'on doit suivre, que ce soit le Monopoly, des jeux de cartes, etc., peuvent avoir un aspect tout à fait plaisir partagé de jouer, mais dans un cadre qui est très défini par rapport au Playmobil, Lego et autres, où l'enfant va pouvoir créer avec d'autres ou avec ses parents des univers qu'il invente complètement sans autre règle que celle que la matière même, l'objet même désigne. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un Playmobil, mais on peut tout imaginer, mais l'objet lui-même, il est là.
Marion Joseph, rédactrice en chef d'Astrapi.
Ce qui est génial avec les Playmobil ou les Lego, c'est que les univers vont pouvoir se mélanger les uns aux autres. On va avoir une collection, on va avoir des pirates qu'on va pouvoir faire jouer avec des personnages de Star Wars, et c'est là où toute l'imagination va trouver sa place. Mais moi, je répondrais comme disait l'auditrice tout à l'heure, c'est-à-dire un jeu par définition, il est éducatif, et dès lors qu'on l'estampille jeu éducatif, c'est peut-être là que du coup, il va perdre de son sens et de son intérêt.
Alors, à quelques jours de Noël, existe-t-il des bons et des mauvais jouets? Or, pour vous, Patrice Huert, un jouet est mauvais s'il ne laisse pas d'espace à l'imagination. Je vous cite, il est mauvais s'il ne peut être dévoyé, subverti, transformé.
Je crois qu'il ne faut pas qu'on confonde le jouet et la vocation et l'utilisation qui peut en être faite. Le jouet, c'est un objet, un support. Après, c'est qu'est-ce que l'enfant va pouvoir faire avec cet objet. Si cet objet détermine de manière extrêmement rigoureuse et précise le parcours et oblige l'enfant dans une direction univoque, ce sera peut-être très intéressant sur le plan éducatif, sur le plan de la formation intellectuelle, que sais-je, mais ce ne sera pas pour moi un jouet comme peut l'être un objet, une peluche, une poupée, un Lego,
un
Playmobil, où là, on peut créer son univers. Et c'est ça qui, pour moi, va être très fondamental dans le jeu. Donc, c'est ces jeux-là qui n'ont pas de vocation prédéterminée, mais que l'enfant va utiliser. Et évidemment, il va apprendre aussi, en l'utilisant, un certain nombre de règles de la physique. Il va apprendre des règles de vie sociale avec les autres pour les partager, etc. Mais c'est pas le but. C'est quand le but est éducatif qu'à ce moment-là, la question du jeu perd un peu de sa valeur.
Vous comprenez qu'il soit difficile pour les parents de ne pas céder à la consommation du tout nouveau jouet à la mode ?
Ah oui, je comprends tout à fait. Mais encore une fois, là, il va falloir voir comment des objets qui ne sont pas forcément des jouets peuvent être détournés par l'enfant. Et l'enfant a une capacité première tout à fait nette pour faire cela. Donc là, je crois qu'il y a un malentendu aussi. Mais c'est ça qui me désespère parfois, c'est de voir des parents qui sont vraiment bien intentionnés, qui veulent bien faire. C'est l'immense majorité. Et plus ils sont dans des situations précaires, plus c'est le cas, j'ai fait beaucoup de visites à domicile dans des appartements et des maisons, eh bien, plus la famille est défavorisée sur le plan matériel, plus vous allez avoir un très grand écran de télévision et des jouets absolument partout, à Noël en particulier. Mais ces enfants sont là avec cette montagne de jouets, mais qu'en faire? Alors qu'avec très peu d'objets, très peu de jouets, on va voir des enfants pouvoir jouer pendant des heures sans problème.
Augustin, c'est quoi un bon jouet, un bon jeu pour toi?
Bah, c'est un jeu avec lequel on peut créer, imaginer, ou alors, inventer.
Bah, c'est une bonne conclusion, Augustin. Dernière question fondamentale, tout de même. Pourquoi beaucoup de jeunes enfants préfèrent jouer avec le carton d'emballage qu'avec le jouet?
Patrice, parce qu'on peut en faire ce qu'on veut. Les ficelles, les rubans, les cartons d'emballage et les papiers d'emballage, vous pouvez les transformer en ce que vous voulez. Et ça, c'est quand même formidable. Et c'est ça que l'enfant apprécie. Par-dessus tout.
Un mot de conclusion autour de la table?
Un mot de conclusion, un super cadeau de Noël, c'est un abonnement à Strapi. Parce qu'on va jouer, on va jouer régulièrement.
Elle perd pas le nord, Marion-Joseph.
Mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais, pour être plus sérieux, je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de mauvais jouets, mais il y a surtout beaucoup de jouets qui finissent par ne servir à rien. Et donc, c'est pour ça que les ludothèques aussi ont un grand intérêt. Parce que...
Oui, moi, la conclusion que je pourrais tirer, c'est que jouer, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment ce qu'il y a de plus sérieux à ouvrir comme espace pour les enfants dès les premiers mois de la vie.
Pour développer leur créativité et leur intelligence sociale notamment, Gwenaëlle Boulet.
Oui, mais ça me fait rire, parce que c'est mon fils l'autre jour où je lui proposais de faire quelque chose, il me dit « Maman, je peux pas, j'ai un très grand projet pour aujourd'hui, j'ai un grand vaisseau à construire, donc là j'ai vraiment pas le temps. »
Il a bien raison. Voilà. Merci beaucoup Augustin d'avoir participé à cette émission, merci Victorien Thomas, merci Patrice Huer, je recommande la lecture de Jouer, un moteur pour la vie, c'est publié chez Nathan, merci Marion-Joseph, Strapi, à la une en ce moment.
À la une, justement un grand jeu, Lumière sur le monde. Un jeu coopératif.
Demain, des astuces pour mieux cuisiner au quotidien avec Julie Andrieux. N'hésitez pas à partager vos astuces sur l'appli France Inter.